Religion du monde. Geneviève Delru.
Archevêque de Paris, je lance un appel au calme. Il faut que la violence s'arrête immédiatement. Je demande à tous ceux qui portent une responsabilité, d'un côté ou de l'autre, de se rencontrer à nouveau. Il faut arriver rapidement à une solution juste. Nous sommes tous concernés.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous l'avez compris, avec l'appel solennel à la radio de l'archevêque de Paris, Mgr Marty, le 11 mai 1968, après la première nuit des barricades dans le Quartier Latin, nous allons, nous aussi, parler de mai 68, mais vu du côté de l'Église. Notre invité est l'historien Yves Chiron, connu pour ses biographies de pape et dont le dernier livre, chez Arthège, s'intitule « L'Église dans la tourmente de 1968 ». Puis nous ferons un saut de 50 ans et nous retrouverons l'Église de 2018 avec le journaliste Henri Tinck, qui signe chez Grasset « La grande peur des catholiques de France ». Exit les cathos de gauche. Pour l'ancien chroniqueur de la rubrique religieuse du Monde, ce sont les cathos identitaires qui tiennent désormais le haut du pavé.
Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris.
Le grand mouvement de contestation qui a secoué la France en mai et juin 1968 n'a pas épargné l'Église. Une Église tout juste sortie du Concile Vatican II, ouvert en 1962 par le pape Jean XXIII et refermée par Paul VI en 1965, et dont le but justement était de renouer le lien entre le catholicisme et la modernité. Si globalement mai 68 s'est fait sans l'Église, l'Église a participé à ce grand mouvement. Des prêtres séculiers, des dominicains, des jésuites, des organes de presse comme Témoignages chrétiens ou des membres d'organisations de jeunesse chrétienne ont soutenu la contestation étudiante. Et dans un deuxième temps, c'est l'Église elle-même qui va être visée en tant qu'institution. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1966, 566 ordinations sacerdotales. 1971, 237. Yves Chiron, bonjour.
Bonjour.
Votre livre raconte ce mois de mai et plus largement toute l'année 1968, dont la publication de l'encyclique de Paul VI « Humanae Vitae » sur la contraception. Et vous soutenez que la crise profonde que l'Église va connaître ensuite, après 1968, dont le départ des prêtres, eh bien en fait, cette crise, elle a commencé bien avant.
Oui, effectivement, il n'y a pas une situation florissante qui se serait dégradée d'un coup en 68. Il y a plutôt différents problèmes dès les années 50, une crise d'identité sacerdotale qui commence à cette époque, des crises ou des contestations doctrinales, et puis, de façon concrète, une baisse des ordinations et une baisse de la pratique religieuse qui est bien antérieure à 1968, bien sûr.
Alors, de même, certains ont pu voir un lien entre la crise de l'Église après mai 68, la crise dans l'Église, avec le Concile Vatican II, donc qui ferme ses portes en 1965.
Oui, je pense que c'est une vue qui n'est pas juste, en ce sens que si il faut distinguer deux choses, je pense, le Concile en tant qu'événement et l'esprit du Concile qui est en lien avec cet événement, et puis les textes du Concile. Et si on considère uniquement les textes du Concile, on voit bien que ce ne sont pas des textes révolutionnaires. En revanche, il est sûr que quand l'Église est entrée en Concile ou en esprit de Concile, c'est-à-dire dès 1959, lorsque le pape Jean XXIII annonce la préparation d'un Concile, on a une ébullition qui, en quelque sorte, va récupérer les attentes, les espoirs, les contestations des années précédentes, donc des années 50.
Alors, replongeons-nous dans ce mois de mai 1968, Yves Chiron, avec un archevêque, Mgr Marty, arrivé au mois de mars. Cet archevêque vient de province, comme souvent d'ailleurs les archevêques de Paris. Il vient de province avec son accent rocailleux qu'on lui connaissait, ce côté, j'allais dire, même provincial. Et il découvre la révolution étudiante dans Paris. Quelques mois après son arrivée.
Ben effectivement, on peut même dire quelques jours, vous savez, parce qu'il est nommé effectivement en mars, mais il n'est intronisé, donc officiellement investi dans la cathédrale, que le 2 mai. Le 2 mai, c'est le jour de l'occupation de Nanterre. Et le 3 mai, c'est le jour des grandes manifestations du Quartier Latin, à la Sorbonne, etc. Donc il arrive vraiment dans un Paris qui commence à être en ébullition, alors que lui ne connaît pas Paris. Il le connaît par des passages qu'il a pu faire, mais il ne connaît rien de la réalité parisienne, à la fois sociologique et, je dirais, ecclésiale.
Et manifestement, à lire votre livre, Yves Chiron, les archives que vous avez pu parcourir, on a quand même le sentiment que Mgr Martine ne comprend pas grand-chose à la situation et qu'il est complètement déstabilisé, qu'il ne sait pas quoi faire.
Oui, effectivement. Je pense que ça dure plusieurs semaines, parce que le mouvement a duré quand même, on va dire, un mois et demi. Donc, dans les premières semaines, il est, mais comme beaucoup d'autres clercs, hein, ou d'autres laïcs ou hommes politiques aussi, il est tout à fait déstabilisé. Il a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc, il va beaucoup chercher à comprendre en allant sur le terrain, je dirais, après les manifestations, en rencontrant à la fois des prêtres, mais aussi des laïcs ou des militants. Et puis il va réunir à deux reprises son conseil presbytéral pour connaître les avis de prêtres, de curés ou d'aumôniers qui, eux, sont à Paris depuis des décennies.
Alors il va aller la nuit même, hein, voir des étudiants, il va aussi aller à l'hôpital, voir non seulement des étudiants, mais aussi des CRS. Et là, ça montre finalement qu'il est tout à fait partagé et qu'il ne veut pas prendre parti pour un bord ou pour l'autre.
Oui, effectivement, lorsqu'il fait cette visite nocturne aux blessés des manifestants suite à la deuxième nuit des barricades, il a été en quelque sorte amené sur les lieux par un prêtre, l'abbé Davzy, qui était un des prêtres partie prenante du mouvement. Donc lui, Mgr Marty, va voir ses blessés étudiants sans faire de déclaration à leur sujet. Et puis, ensuite, il fait connaître qu'il a vu les étudiants, mais qu'il ira voir aussi les CRS blessés. Donc, on voit bien qu'il ne veut pas, on va dire, prendre parti pour le mouvement, même si il comprend certaines des aspirations du mouvement.
Oui, leur mouvement, on en parlera un peu plus tard, auquel se sont effectivement joints des jeunes étudiants de la jeunesse étudiante chrétienne.
Oui, des étudiants, et puis aussi, on peut peut-être en parler, des aumôniers, certaines aumôneries du moins du Quartier Latin, c'est-à-dire les dominicains du centre Saint-Guillaume, qui était pour la fac de droit et de sciences éco, les jésuites qui, eux, étaient à Sciences Po. En revanche, si on peut en parler, par contraste, on a l'aumônier de la fac des lettres, donc du centre Richelieu, qui est l'abbé Lustiger, donc le futur cardinal Lustiger, qui lui est très critique dès le départ et qui estime que beaucoup de ses confrères manquent de lucidité sur à la fois la nature et l'esprit du mouvement de contestation.
Oui, là, effectivement, on reconnaît tout à fait le tempérament très fort, hein, du cardinal Lustiger, enfin de celui qui deviendra le cardinal Lustiger, sa vision aussi politique, hein, à travers cette phrase, quand on lui demande de prêter une partie des locaux pour que les jeunes étudiants puissent se réunir, etc., il dit: l'évangile n'a rien à faire dans ce bazar. Ça, c'est du Lustiger pur jus. Hein.
Oui, effectivement. Donc, lorsque la Sorbonne est occupée le 13 mai par les étudiants, lui choisit de fermer le centre Richelieu pour pas qu'il y ait, on va dire, d'occupation ou de contamination. Donc, il y aura encore des offices, des messes qui vont être célébrées, des accueils individuels qui vont être faits, mais il ne veut pas que le centre Richelieu devienne éventuellement un pôle nouveau de contestation ou soit occupé par des contestataires. Et lui-même n'ira jamais dans la Sorbonne occupée. Alors que d'autres aumôniers d'Action catholique vont y aller et vont être émerveillés de ce qu'ils pensent être une grande libération de la parole et puis une utopie en marche.
Oui, c'est ça, la convergence entre l'évangile, ce qui pourrait être son message révolutionnaire, et puis cette histoire apparemment en marche.
Mmh. On a un aumônier comme l'abbé Le Rivray, qui est l'aumônier de l'Action étudiante chrétienne, qui lui est d'origine normande, mais qui est installé à Paris comme aumônier des étudiants depuis quelques années, et qui va être tout à fait admiratif, y compris admiratif lors de la nuit des barricades, à laquelle il, non pas il participe, mais à laquelle il assiste. Il trouve que c'est un événement extraordinaire, révélateur d'une nouvelle naissance, conscientisation des étudiants, etc.
Oui, que mai 68 marque l'an 1 d'une ère nouvelle.
Oui, c'est-à-dire que dans une société qui est une société de consommation à l'époque, hein, avec un niveau de chômage très bas, un niveau de vie qui augmente. L'idée que cette société de consommation moderne qui est offerte aux étudiants ne leur donne pas des perspectives suffisantes, les maintient dans un univers matérialiste, et que donc s'il faut un grand ébranlement, un grand renversement pour faire naître une société différente, eh bien, il faut accueillir cet ébranlement avec sympathie, avec attention, avec bienveillance.
Effectivement, on peut noter une forme de lyrisme de la part de certains dans l'accueil de mai 68. Il y a des hommes, et ça on les trouve beaucoup plus chez les dominicains et les jésuites, des hommes qui sont très engagés, et ça d'ailleurs bien avant mai 68. Et parmi ces hommes, il y a le jésuite Michel de Certeau, qui lui est dans un véritable lyrisme par rapport à ce qui se passe à Paris, la nuit notamment, sous les barricades.
Oui, donc lui c'est une personnalité vraiment exceptionnelle, un grand théologien, historien de la mystique, mais qui déjà depuis plusieurs années s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse, a suivi lui-même une analyse, et qui va découvrir mai 68, il va définir ce mouvement et cette contestation comme la prise de parole. C'est-à-dire que pour la première fois, lui semble-t-il, des jeunes et puis finalement une société entière prend la parole, s'exprime, sans, même si c'est la contestation, les objectifs de cette contestation ne sont pas forcément bien clairement définis, pour lui c'est un événement de nature quasiment spirituelle, une libération qui advient pour tous. Alors lui, on va dire, a théorisé cette analyse de 68 dans un article qu'il rédige dès la fin du mois de mai et qui est publié en juin, mais c'est parce qu'il a passé tous les jours, toutes les nuits quasiment du mois de mai, à se promener dans le quartier latin, à interroger les uns les autres, à observer. Et son analyse, à cause de l'autorité qu'il avait, va forcément influencer beaucoup d'autres.
Et puis, il y a par exemple une autre réaction tout à fait significative que vous relevez dans votre livre, Yves Chiron, c'est celle de l'abbé Bernard Leriveray, qui est donc l'aumônier national de l'Action catholique universitaire.
Oui, alors lui, il est en place depuis quelques années déjà, et lui aussi va beaucoup se promener, on va dire, dans le quartier latin, dans les rues, et lors de la première nuit des barricades, donc le 10 mai, il est présent, et pour lui c'est vraiment un événement qui est resté dans sa mémoire comme un événement tout à fait extraordinaire. Il dira, c'est un des deux ou trois instants de vérité qu'un homme peut avoir dans le cours de sa vie. Cette nuit donc restera pour moi une nuit où l'esprit a cherché à envahir cet univers matérialiste, ce monde sans valeur. Cela je l'ai vu dans le travail hallucinant des étudiants qui construisaient des barricades, etc., etc. Donc il y a vraiment chez lui une fascination pour ce qui est en train de se passer, même si ça a une tournure violente.
Et effectivement, la question de la violence va diviser les chrétiens qui sont favorables à un mouvement de contestation. Il y a ceux qui estiment que la violence peut effectivement être utilisée, tandis que d'autres, bon, la rejettent. Et ça, c'est parce que il y a, bien sûr, cette fascination de Che Guevara, et aussi également de Camilo Torres, voilà, qui est ce prêtre colombien, qui était curé et qui va prendre les armes et qui meurt les armes à la main. Donc ça, c'est l'influence, j'allais dire, de ces révolutionnaires du Sud.
Oui, effectivement, on n'en a plus beaucoup idée aujourd'hui, mais on a eu dans les années 60, et ensuite dans les années 70, ça s'est poursuivi, mais dès les années 60, donc avant mai 68, en Amérique latine, on a une implication d'une minorité, mais enfin d'une partie de l'Église, et y compris certains prêtres, en faveur de la révolution, ou du moins d'un mouvement armé pour amener la libération politique, économique des populations. Vous citiez effectivement Camilo Torres, c'est un Colombien d'une grande famille de Colombie, une des trois plus grandes familles de Bogota, qui il a été formé en Belgique, à la faculté de théologie de Louvain, et il va juger nécessaire de rejoindre une guérilla, l'armée de libération nationale, qui va exister pendant des années, pour combattre le régime qui est en place en Colombie, qui lui semble un régime injuste, et finalement, il va être tué en combattant, c'était son premier engagement militaire, donc tué en combattant en 66. Et il va être pendant des années, y compris en France, dans certaines publications, dans certains milieux, une figure de référence. On peut dire que c'est le Che Guevara catholique. Et il était prêtre.
Et d'ailleurs, à relier avec ces grandes figures, ou à relier partiellement, c'est la théologie de la libération dont l'acte fondateur est la conférence de Medellín en Colombie en 1968. Cette théologie de la libération que Jean-Paul II plus tard va combattre en commettant du reste des erreurs en Amérique latine, en nommant quand même des évêques ultra-conservateurs et en faisant une sorte de ménage parmi un clergé qu'il considère de façon globale marxisant. Mais bon, on ne peut pas ne pas relier cette fascination pour ces figures à la théologie de la libération apparue en 1968.
Oui, on va dire l'origine de la théologie de la libération, c'est 64. 68, c'est l'apparition du mot en tant que tel, notamment à travers le plus grand théologien de la libération, le péruvien Gutiérrez. Et puis, lors de la conférence de Medellín de 68, effectivement, conférence des évêques d'Amérique latine.
De la CELAM.
De la CELAM, voilà. Elle va en partie s'imposer, même si Paul VI, qui lui était en Amérique latine à ce moment-là pour un voyage officiel, a déjà essayé de mettre des freins, a déjà mis en garde. Mais en fait, la tendance générale qui va ressortir, c'est, on va dire, un appui à cette théologie de la libération, même si, encore une fois, tous les évêques d'Amérique latine ne sont pas d'accord avec cette perspective, et s'il y aura des divisions dès cette époque-là.
Vous êtes bien sur RFI et vous écoutez Religion du Monde. Yves Chiron, avant d'évoquer l'attitude du pape Paul VI par rapport aux événements de mai 68, quelques mots encore sur l'Église de France, notamment sur le clergé qui finalement a traversé une crise mais a commencé déjà à la vivre. Sur le clergé, comment ça va se dérouler dans les séminaires? Par exemple, le séminaire des Carmes à Paris ou le séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Est-ce qu'il y a de la contestation? Est-ce qu'on commence à dire, voilà, l'autorité, on n'en veut plus, le dogme, il faut le bouger, il faut que ça bouge? Qu'est-ce qu'on dit dans les séminaires?
Je dirais que la situation est assez différente entre les deux séminaires que vous évoquez. Le séminaire des Carmes est quand même très proche du Quartier Latin. Et donc, on a des étudiants qui, eux, font des études supérieures en théologie ou en philosophie ou en lettres, pas forcément dans des universités catholiques, ils peuvent être aussi à la Sorbonne ou ailleurs. Et donc là, on a des étudiants qui vont, pour un grand nombre d'entre eux, pas tous, hein, mais un grand nombre, souhaiter rejoindre ce mouvement, au moins pour aller voir ce qui se passe. Et donc, ils vont parfois faire le mur le soir pour aller dans ces rues du Quartier Latin qui sont très agitées et qui les font rêver. Issy-les-Moulineaux, c'est un peu plus loin. À l'époque, même si on a déjà des liaisons, c'est plus difficile de venir à Paris. Donc, ils sont davantage préservés. Ils n'ont pas à sortir de leur séminaire pour aller étudier. Et donc là, on n'a pas de contestation. On a un intérêt qui se manifeste par la lecture des journaux ou l'écoute de la radio. Et puis, de temps en temps, on a des séminaristes qui vont au Quartier Latin, mais on en a aussi qui vont aller à la manifestation de soutien au général de Gaulle le 25 mai. Donc, on a des situations assez différentes, même si finalement, on peut dire que globalement, dans l'ensemble des séminaires français, le fonctionnement va être modifié, va être réformé suite aux événements de mai 68 qui avaient touché l'ensemble du monde éducatif.
Alors, Yves Chiron, il y a quand même des chiffres qui parlent. En 1948, 1800 ordinations par an. 1968, 481. 1977, 99. Et aujourd'hui, c'est en dessous de 100 hein, chaque année.
On a, on va dire, un déclin qui s'était amorcé largement par les chiffres que vous avez cités, mais qui va encore s'accélérer après mai 68. Et donc, on voit bien que ce n'est pas mai 68 qui crée le problème ou la remise en cause, mais que mai 68 accélère une remise en cause. En gros, comme si les séminaristes ou les jeunes catholiques se disaient la contestation, la remise en cause qui s'est faite dans la société, dans le milieu étudiant, pourquoi ne se ferait-elle pas non plus dans l'Église? Et donc on a une remise en cause de l'identité sacerdotale qui s'accélère à la faveur de mai 68 et qui va avoir des conséquences importantes puisqu'effectivement le nombre des ordinations ne va cesser de baisser jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a certaines nuances qu'on pourrait apporter.
Qu'est-ce que ça veut dire finalement, crise de l'identité sacerdotale? Qu'est-ce qu'ils se disaient les prêtres? C'est quoi être prêtre aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'un prêtre? À quoi sert-il? Est-ce que, alors là on entre dans des questions très concrètes, est-ce que le célibat est vraiment un absolu qui est intangible? Est-ce que on ne peut pas concilier, sans parler des prêtres ouvriers, un travail et le sacerdoce? Est-ce que tout ce qui est enseigné par Rome doit être pris comme parole d'évangile? Parce que ces analyses-là, on constate, sont faites dans des forums, c'est-à-dire des regroupements de jeunes prêtres qui ont lieu pas seulement à Paris, mais aussi en province, je pense à Lyon notamment, où on va dire dans une sorte de cahier de revendications de ces jeunes prêtres, donc des prêtres déjà ordonnés depuis quelques années, hein, 2-3 ans, en 68, il y a une parole effectivement qui se libère et un certain nombre d'entre eux, un nombre important de prêtres, remettent en cause y compris donc l'autorité de Paul VI.
Parlons-en justement. Le pape Paul VI est totalement lié à la publication de sa dernière encyclique Humanae Vitae, qui interdisait donc la contraception, qui va donner une image totalement rétrograde de l'Église. On se rend compte que c'est pas si simple, qu'en fait, Paul VI était très tiraillé. Il y avait celui qui pouvait comprendre, et puis celui qui se disait que si on abandonne un des fondamentaux, la morale de l'Église en matière... en matière familiale, eh bien, l'Église prenait un risque. Et là, en fait, finalement, il va se rendre compte très vite que c'est extrêmement mal reçu. Mais alors, curieusement, c'est quand même mieux reçu dans les pays du tiers-monde, notamment dont Hélder Camara, une des figures progressistes du clergé en Amérique latine, donc archevêque de Recife, lui comprend cette encyclique. On est vraiment étonné quand on lit ce passage de votre livre, Yves Chiron.
Oui, effectivement. Un mot sur cette encyclique. Le débat avait commencé à être agité au moment du concile, dès l'époque de Jean XXIII. Jean XXIII avait jugé plus prudent de ne pas laisser ça en débat et en décision au concile, mais de confier le travail à une commission. Donc cette commission va travailler plusieurs années avec des instances à la fois laïques et ecclésiales, des théologiens, des démographes, des scientifiques, des médecins. Et Paul VI va attendre les résultats de ces commissions, et comme ce résultat se fait attendre lui-même, l'idée va se répandre que si Rome hésite, c'est que Rome va peut-être dire oui à la pilule, pour résumer les choses. Et donc on a eu un espoir démesuré qui finalement s'est brutalement évanoui lorsque l'encyclique est parue et que de façon très claire, très ferme et très solennelle, Paul VI dit non à la contraception, on va dire artificielle, non à la pilule. Et même des épiscopats ont été critiques dans leur déclaration officielle de présentation de l'encyclique. Les évêques ou les épiscopats qui ont soutenu Paul VI ont été finalement peu nombreux, idem parmi les théologiens.
Cette encyclique Humanae Vitae en 1968, Yves Chiron, c'est un grand rendez-vous manqué de l'Église avec l'histoire, j'allais dire.
Vous savez, on peut juger que c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire, avec la modernité, avec l'évolution des mœurs. On peut aussi considérer, et ça, là aussi, on a des surprises quand on étudie la chose, on peut considérer que l'Église a dit non, a estimé que c'était une barrière qu'elle ne pouvait pas franchir. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à certains épiscopats du Sud, Monsieur Hélder Camara au Brésil, mais beaucoup d'évêques, la majorité des évêques d'Amérique du Sud, aussi beaucoup d'évêques en Afrique noire, qui eux pensent que Paul VI a bien fait de refuser la contraception artificielle, c'est-à-dire la pilule, parce que pour eux, la pilule, c'est une politique de contrôle démographique imposée par les Occidentaux, par les pays riches, qui ont peur de la population, de la démographie galopante des pays pauvres. Donc eux, ils estiment qu'au contraire, Paul VI est prophétique.
Alors, pour conclure, Yves Chiron, l'Église dans la tourmente de mai 68, elle s'en est sortie quand même ou pas?
Je dirais que l'Église s'en sort toujours. Vous voyez, en 2000 ans, les crises qu'elle a traversées ont été nombreuses, ont eu des origines diverses, des conséquences parfois considérables. Je pense à la séparation catholique-orthodoxe, la séparation protestant-catholique, etc. Là, il n'y a pas eu de séparation suite à cette crise de l'Église, sinon dans la frange, on va dire, traditionnaliste, avec le schisme de Mgr Lefebvre, qui a été en partie résorbé. Mai 68 n'est pas un déclencheur, c'est un élément supplémentaire dans un processus de remise en cause qui était ancien. Alors est-ce que ce processus de remise en cause est terminé? Je pense qu'historiquement on peut dire oui, en ce sens que il n'y a plus de contestation interne qui soit très développée. En revanche, ça ne veut pas dire pour autant que la situation de l'Église est redevenue florissante comme avant.
Précisément parce que, est-ce que mai 68, est-ce que cette crise en Église n'est pas d'abord la crise de la foi ?
Crise de la foi et crise aussi de la conception religieuse au sens large et de ce qu'implique une adhésion religieuse. Après, on pourrait considérer la situation qui est très contrastée entre aujourd'hui, par exemple, des paroisses dans des grandes villes et puis des zones rurales beaucoup plus, on va dire, éloignées de la pratique.
Je vous remercie Yves Chiron. Je rappelle le titre de votre livre, L'Église dans la tourmente de 1968, et c'est publié chez Arthège.
Religion du monde. Geneviève Delrue.
Et ce sont les fidèles de l'Église de 2018 qui nous intéressent à présent dans cette deuxième partie de Religion du Monde, avec notre invité, le journaliste Henri Tinck, ancien responsable de la rubrique Religion au Monde, auteur de plusieurs essais sur cette Église dont il scrute la vie et les évolutions depuis plusieurs décennies et sur laquelle il livre un constat inquiet dans son dernier ouvrage La Grande Peur des catholiques de France, et c'est publié chez Grasset. Henri Tinck, bonjour.
Bonjour.
Alors la première phrase de votre livre donne le ton et la teneur, je ne connaît plus mon église. Exit, comme je le disais au début de cette émission, les cathos de gauche, voire le catholicisme social de l'après-guerre, des années 60-70, précisément celles qui ont suivi mai 68, ce sont pour vous les catholiques identitaires qui ont pris le relais. Leur apparition date de la Manif pour tous, en 2012-2013, donc ce mouvement opposé au mariage gay. Depuis, ils seraient donc sortis du bois et se présentent comme les derniers défenseurs d'une société qu'ils vivent comme menacée par la déchristianisation, la cathophobie, la laïcité, la perte des repères familiaux, la révolution anthropologique, le multiculturalisme et l'islam. Alors est-ce que l'on peut dire que c'est une contre-révolution culturelle, un contre-mai 68 ?
Ah, d'une certaine façon, oui. Il va de soi qu'il n'y aurait pas cette vague identitaire aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette sorte de traumatisme pour l'Église qu'a représenté mai 68 et que Yves Chiron vient d'aborder. Il y a une sorte de réaction puissante qui avait été amorcée sur le plan doctrinal par des papes comme Jean-Paul II et comme Benoît XVI, sur le thème de la restauration. L'Église est allée trop loin dans le Concile Vatican II et les catholiques se sont d'une certaine façon fourvoyés dans les mouvements progressistes liés à mai 68. Donc il y a eu même au sommet de l'Église une réflexion sur le thème, il faut rééquilibrer les leçons, les héritages, les acquis de Vatican II, et il faut tirer les leçons de mai 68 sur le thème la révolution n'est pas dans l'Église, le Concile, mais rien que le Concile, pas plus, et ne pas faire dire au Concile ce qu'il n'a pas dit, ce qui a été la tentation d'un certain nombre de catholiques progressistes à l'époque de mai 68. Donc aujourd'hui, on est précisément dans cette phase de restauration d'une Église conciliaire, mais surtout, me semble-t-il, parfois pré-conciliaire. Voilà. Et de ce côté-là, il y a un retour en arrière lié donc à cette évolution de l'Église progressiste, lié à la mise en cause des catholiques de mai 68 qui auraient été marxistes, qui auraient pactisé avec le marxisme. Là encore, on entend souvent dire dans les milieux catholiques de droite et d'extrême droite identitaire que que les catholiques progressistes de mai 68 et des suites étaient tous des marxistes, liés aux marxistes. Alors, qu'il y ait eu quelques dérives, oui. Qu'il y ait eu une contestation autour de la théologie de la libération, oui. Mais c'est un faux procès de dire que les cathos de gauche étaient tous liés au marxisme.
Alors, quand vous dites on revient finalement à l'époque d'avant le Concile, là, vous évoquez le succès des tradis, hein, finalement, de ces séminaires tradis qui font beaucoup plus le plein que les séminaires classiques. Exactement. Vous évoquez aussi je dirais le retour à une liturgie qu'on avait un peu oubliée, à des postures même. Hein, on voit des jeunes s'agenouiller, les reliques, les processions. Mais est-ce que ça n'est pas quand même, malgré tout, même si c'est significatif et que ça parle, on va en discuter, mais est-ce que ça n'est pas marginal malgré tout, Henri Tinck ?
Ah, de moins en moins marginal.
De moins en moins marginal.
Il y a un mouvement de fond, c'est vrai. À l'époque de mai 68, disons, ou à l'époque post-conciliaire, le concile ayant été, comme le voulait Jean XXIII, l'ouverture des portes de l'Église. Des chrétiens, des catholiques se sont dit « on est dans notre Église » et grâce au Concile Vatican II, à ses leçons, grâce au mouvement de mai 68, on va s'ouvrir au monde. C'est-à-dire, on va entrer dans les organisations syndicales, sociales, dans les associations. On va s'ouvrir au monde. On est passé, avec le Concile Vatican II et mai 68, on est passé, au fond, d'une église un petit peu renfermée sur elle, à une ouverture au monde dans toutes ses dimensions. Oui. Aujourd'hui, on est dans un mouvement inverse. C'est-à-dire qu'on vient d'un monde où l'Église est plus très présente et on va rechercher des structures qui rassurent, qui donnent des repères, qui donnent des certitudes, qui donnent des principes de vie, des valeurs, qui donnent un sens à la vie. Et c'est ce mouvement-là qui est fait par un certain nombre de jeunes catholiques, jeunes ou moins jeunes même, et c'est ce mouvement inverse que font certains séminaristes dans des communautés très traditionnelles, comme la communauté Saint-Martin, qui, comme vous le disiez, recrute beaucoup plus facilement que les séminaires classiques dans les différents diocèses de France. Et ces jeunes prêtres incarnent ce retour à la tradition. Ils veulent, d'une certaine manière, se retrouver dans une serre chaude qui serait l'Église où on a ses repères. Voilà, un besoin d'identité et un besoin de communauté, un besoin de rite, de prosternation, de gestes, de vie commune. Voilà le mouvement de fond qui est en train de se produire.
Là, c'est généralement d'ailleurs la réponse des communautés religieuses quand elles se sentent minoritaires ou agressées. C'est typique.
C'est exactement...
En islam, on le retrouve aussi, hein, et même dans le judaïsme, pareil.
Ce sont exactement des réactions de minoritaires. Minoritaires dans un monde, dans une société, donc qui fait peur, pour reprendre le titre de mon livre, parce que l'Église est moins présente, la foi chrétienne se dissout de plus en plus, parce que on sent une sorte, n'ayons pas peur des mots, d'hégémonie culturelle d'une sorte de gauche qui, en 75, a voté pour l'avortement, qui banalise d'une certaine façon l'avortement, qui propose la procréation médicalement assistée, qui propose des étapes de plus en plus affirmées à chaque fois vers l'euthanasie. Voilà, l'hégémonie culturelle d'une certaine gauche aujourd'hui déplaît dans un certain nombre de milieux, et il y a un besoin de se resserrer, de se refixer une doctrine au sein de cette Église catholique. Il y a Un autre facteur de peur qui est évidemment considérable, c'est, chacun le devine, c'est la présence sur le sol français qui était inimaginable au moment du Concile Vatican II dans les années 60 et au moment de mai 68, c'est l'immense présence de la communauté musulmane. Une preuve du changement qui est intervenu par rapport à ces années 68-70, dans les années 70, les premiers conflits de sans-papiers avait lieu dans les églises, et les associations de chrétiens, pas seulement des catholiques mais aussi des protestants, étaient aux avant-postes des luttes pour la défense des sans-papiers, pour les droits des immigrés, pour les droits des musulmans. À cette époque-là, certains imaginaient même qu'il fallait donner des églises vides aux musulmans. 50 ans après, on est dans un schéma complètement inverse. Les catholiques n'ont pas des sentiments différents de ceux de la majorité des Français vis-à-vis de l'islam aujourd'hui en France.
Ils ont peur.
Ils ont peur.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Henri Tinck pour son livre La Grande Peur des catholiques de France et c'est publié chez Grasset. Votre livre, Henri Tinck, est aussi une lecture politique. On revit la campagne de 2017. Et là, vous parlez de chiffres qui vous ont glacé. Au premier tour, 46% des cathos pratiquants ont voté Fillon et 38% des cathos pratiquants toujours ont voté Marine Le Pen. Et au total, si on fait l'addition de tous les candidats, donc également Dupont-Aignan, eh bien, deux cathos sur trois ont voté à droite ou à l'extrême droite au premier tour. Ça vous glace, là?
C'est énorme. Ces chiffres traduisent dans les urnes cette peur qui est en train d'envahir, disons-le, une partie de la société française et une partie de la société catholique. Et une partie de plus en plus grande, quoi. Revenons d'un mot sur le vote François Fillon. François Fillon qui se disait catholique sur tous les plateaux, qui fréquentait les abbayes, qui parlait souvent des chrétiens d'Orient, dont acte, mais c'est aussi ce François Fillon qui avait de sérieux ennuis avec la justice et avec, disons-le, sa moralité personnelle. Quoi.
Et malgré la faute morale...
C'est aussi ce François Fillon qui défendait une politique très austère sur le plan économique et une politique d'austérité. Souvenez-vous, on parlait d'une sorte de Thatcher français, quoi. Et ça ne plaît pas forcément à des catholiques soucieux de justice sociale, quoi. Et malgré ce handicap moral pour François Fillon et cette image de monsieur austérité, de monsieur, peut-être injustice sociale, un catholique sur deux a voté pour François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle. Et au deuxième tour, c'est un catholique sur trois, 38% qui ont voté pour Madame Marine Le Pen. C'est un chiffre...
Un catholique pratiquant.
Un catholique pratiquant. C'est un chiffre à rapprocher de celui de l'élection de 2002, 15 ans avant. 17%. En 2002, 17% seulement, si je puis dire, avaient voté pour Jean-Marie Le Pen contre Jacques Chirac en 2002. En 2017, on est passé de 17% à 38% qui ont voté pour Le Pen. Donc on voit là la progression qui est manifeste, qui est importante. Il y a une droitisation très forte du corps électoral catholique. Alors, vous allez me dire que les catholiques ont toujours été très majoritairement votants pour le centre, la démocratie chrétienne, une sorte de gaullisme modéré. C'est évident. Mais on a aussi longtemps dit, et c'était l'une des règles écrite du grand historien René Raymond qui disait que plus on était catholique et moins on votait Front National. Ce n'est plus vrai. L'Église catholique n'est plus un cordon sanitaire contre le Front National. Il faut bien se réaliser là ce qui est en train de se passer. Et parlons des cathos de gauche. en 1981.
Oui, mais ils sont 1981, où les catholiques, justement?
Oui, Henri Tinck, oui. 30% des catholiques avaient voté pour François Mitterrand en 81, alors que François Mitterrand était l'allié des communistes. Donc, on pouvait se dire que François Mitterrand, c'était une horreur pour les catholiques. Bah, il y a quand même près d'un tiers qui avait voté pour lui. Voilà. Et en 2017, 14% seulement ont voté pour l'ensemble des candidats de gauche à l'élection présidentielle, au premier tour de l'élection présidentielle, 14%. Donc là, il y a une chute de ces catholiques de gauche qui sont rentrés dans le rang, qui ont disparu, ou bien qui, s'ils sont toujours là, militent autrement. Non plus comme dans les années 60-70 que nous avons évoqué dans les grands mouvements d'action catholique, dans les grands mouvements d'évangélisation. Ils ne sont plus là, ces mouvements d'évangélisation sont retombés, ont évolué autrement, et aujourd'hui, ces catholiques ne sont plus là, ou bien militent beaucoup plus discrètement au sein de l'Église, d'ailleurs. Ils font tourner la boutique, souvent, mais c'est aussi dans des associations de chômeurs, de promotion du logement social, des droits de l'homme, le logement, l'accueil des immigrés, ça existe encore, mais de manière beaucoup plus discrète. On peut dire qu'en tant que poids électoral, poids politique, les cathos de gauche aujourd'hui ne représentent presque plus rien. Ils sont les victimes, de cette façon, de ce climat de restauration dans l'Église qu'on a évoqué quand on est parti de mai 68. On a redressé les dérives post-conciliaires qu'on a évoquées, et il y a une autre désillusion des cathos de gauche, c'est l'échec des expériences de gauche au pouvoir sous François Mitterrand et plus encore sous François Hollande. Là, ils sont très déçus, ils ne peuvent plus s'imaginer, s'identifier à des hommes politiques de gauche qui sont largement discrédités par leur bilan aujourd'hui.
Quelques mots, Henri Tinck, sur le discours d'Emmanuel Macron aux Bernardins récemment. Discours donc à l'occasion de cette invitation par les évêques de France. Là, il a fait l'éloge du catholicisme et de la porte du catholicisme, très loin de ce que vous écrivez aujourd'hui, Henri Tinck.
Il a tenu un discours sur le catholicisme et la religion que, à titre personnel, j'attendais des présidents de la République depuis toujours, quoi. On a une espèce de timidité dans un pays laïque comme la France pour aborder ces questions-là. Là, Macron a fait un discours, me semble-t-il, complet, qui n'est pas susceptible d'être récupéré électoralement, politiquement, mais il a dit en quelques mots ce qu'on attend de toutes les démocraties modernes. Les religions sont là. Il ne s'agit pas de leur donner un pouvoir qu'elles ne peuvent pas avoir selon la loi de 1905. Il ne s'agit pas de retoucher à la loi de 1905. On garde notre système laïque qui a du bon, mais il faut considérer que les religions sont des partenaires majeurs dans le débat public pour intervenir sur les grands sujets comme la bioéthique, comme les réfugiés, comme les immigrés. Ni trop, ni trop peu. Je crois que c'est une très bonne leçon, et toutes les criailleries, pardonnez-moi, des laïcs qui ont suivi ne sont complètement à côté de la plaque.
Revenons à votre livre, Henri Tinck, La grande peur des catholiques. Donc ces catholiques que vous estimez, donc que vous jugez identitaires, repliés sur eux-mêmes, qui vont dans le sens d'un communautarisme, qui agitent les peurs. Bon, ça c'est le constat. Est-ce que on ne peut pas derrière le constat poser les questions? C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur?
Je ne crois pas. L'histoire de l'Église est très longue. Elle a vu d'autres crises. Il y a des signaux quand même derrière lesquels il faudrait pouvoir se diriger. Nous avons par exemple un pape à Rome qui s'appelle François, qui incarne un mouvement qui, dans l'esprit de Vatican II, bien sûr, d'une certaine façon aussi dans l'esprit de mai 68, mais de manière très évangélique, qui incarne cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté d'être confiant, de pas se laisser écraser par la peur. Et qu'est-ce qu'il dit, le pape François ? Il rappelle les catholiques à l'accueil des immigrés. Il n'ignore pas que la montée de l'islam en Europe soulève des problèmes important pour la dimension chrétienne de l'Europe, mais on ne peut pas se laisser aller par des discours ravageurs qui consistent à dire qu'un jour les mosquées vont remplacer les églises, qui consistent à dire qu'un jour en France les catholiques seront moins nombreux que les musulmans pratiquants. Voilà, on en est là. Il y a des discours qu'on lit tous les jours dans les blogs identitaires sur ce thème-là. Aujourd'hui, disent-ils, les catholiques pratiquants sont moins nombreux que les musulmans pratiquants dans un pays aussi chrétien que la France. On ne doit pas tenir ces discours qui sont des
batailles de chiffres pour vous qui sont dangereuses.
Des batailles de chiffres qui sont dangereuses, qui pour l'esprit public sont condamnables. Et puis François, et c'est aussi l'homme qui dit que le message que l'Église aujourd'hui doit donner, c'est un message de confiance et un message positif par rapport à la société, que l'Église n'est pas là pour juger, n'est pas là pour condamner en permanence, n'est pas là pour donner des leçons en permanence. L'Église, elle est là pour accueillir, pour faire miséricorde, pour ouvrir les bras aux hommes d'aujourd'hui. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à propos des homosexuels et qui fait hurler dans les milieux de droite. Qui sommes-nous pour juger de l'attitude des homosexuels, dit-il. Même chose pour les femmes qui avortent. Même chose pour les divorcés remariés qui n'ont pas accès à la communion. Lui, il dit, mais pourquoi pas, examinons chaque cas. Et puis, voilà.
Et en même temps, il n'est pas non plus pour le mariage gay.
Il n'est pas
non plus pour la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe, etc.
Bon, il ne met pas, remet voilà. Absolument pas en cause la doctrine catholique dans tous ces domaines, mais il dit qu'il y a des attitudes à avoir, une attitude de miséricorde et d'amour, quoi, pour ceux qui font des choix différents. Et là, on est vraiment au cœur, me semble-t-il, de l'actualité du catholicisme aujourd'hui. Il y a un conflit entre un pape qui tient ce discours-là, d'une église accueillante, d'une église ouverte, qui s'appuie sur l'évangile pour dire il faut aimer l'autre même s'il peut déranger, et puis des catégories entières de catholiques qui se repli dans un discours de « c'était mieux avant », il faut revenir à la doctrine très ferme de l'Église, il faut des discours qui font la clarté, qui condamnent aux besoins et qui ne tolèrent rien quant à la doctrine, aucun changement par rapport à la doctrine de l'Église.
Alors vous, Henri Tinck, c'est un peu une boutade, vous voulez retrouver votre Église d'avant?
Non, je ne veux pas retrouver...
Des années 70, non.
Je ne veux pas retrouver mon église d'avant, mais je voudrais retrouver cette église que, comme journaliste religieux, et comme croyant, et comme pratiquant, et comme d'autres journalistes, et vous l'êtes aussi, chère Geneviève, c'est-à-dire cette église... qui est présente dans le monde, dans les combats auprès des plus pauvres, auprès des plus précaires. Cette Église, avec son caractère social, son caractère œcuménique, son caractère missionnaire, au bon sens du terme. Voilà l'Église des années 60 que je voudrais retrouver aujourd'hui. C'est cette Église sociale, cette Église ouverte au monde, qui n'a pas peur du monde, qui lui ouvre ses bras. Voilà.
Une Église confiante. La grande peur des catholiques de France, Henri Tinck. Donc votre livre, publié chez Grasset. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.